des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison et de l'ouvrir par une rencontre entre deux écrivains dont les livres nous ont beaucoup marqué en cette rentrée littéraire, de livres très différents dans le ton, dans le propos, mais qui plongent tous deux dans l'une des zones à risque de la littérature où beaucoup d'écrivains sont allés, dont beaucoup aussi ne sont jamais revenus. Cette zone, c'est la famille qui est au centre du roman de Karine Thuil, Les choses humaines, qui paraît chez Gallimard. Bonjour Karine Thuil.
Bonjour.
Et du roman aussi de Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur, qui sort lui chez POL. Bonjour Santiago Amigorena.
Bonjour.
Santiago Amigorena, dans le livre, dans ce livre que vous écrivez depuis plus de 20 ans, nous dites-vous, puisqu'il est à l'origine de tous les autres livres, de ce grand projet littéraire que vous avez entrepris, vous abordez, à travers des lettres que vous avez retrouvées, l'histoire bouleversante, et le livre l'est tout autant, vraiment, l'histoire bouleversante de votre grand-père, Vicente Rosenberg, un juif de Varsovie, installé en Argentine dès 1928, marié, père de deux enfants au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, qui avait trouvé d'ailleurs dans ce nouveau territoire une forme de liberté loin de la vieille Europe et qui songe à faire venir donc en Argentine sa mère restée à Varsovie. Sauf que la guerre éclate, que les nouvelles qu'il reçoit sont de plus en plus inquiétantes, qu'elle est enfermée dans le ghetto de Varsovie et qu'il comprend peu à peu qu'elle n'en sortira pas. L'enfer éclate dans les mots de la mère de Vicente, cette mère exposée à la violence nazie, et la culpabilité ravage le fils qui, lui, est à l'abri. Et c'est cette douleur, c'est cette culpabilité, c'est cette impuissance à sauver qui l'on aime, ce ghetto intérieur que vous racontez dans votre livre, Santiago Amigorena. C'est un livre qui s'appuie donc sur des documents que vous avez retrouvés, ou vous ne les aviez pas ouverts. Comment ça s'est passé?
C'est des documents qui étaient dans ma famille, donc c'est les lettres que mon arrière-grand-mère a adressées à son fils. À partir de 1928, à partir du moment où il a quitté la Pologne, et jusqu'à la dernière lettre date de 1942. Donc, elle est morte un tout petit peu plus tard, à Treblinka. Donc ces lettres étaient là, ma mère les avait fait traduire il y a quelques années, et je ne les avais pas lues immédiatement. Et en fait, je les ai lues il y a à peu près 3 ans, et j'ai commencé à écrire. Donc il y a deux sources. Il y a aussi j'ai un cousin qui a écrit un livre, oui, qui raconte l'histoire de ses deux grands-parents, dont
vous le dites, hein,
voilà.
Oui, vous le dites au début du livre, voilà, à Mopi, qui, oui, l'a écrit avant moi.
Oui,
voilà.
En fait, c'était dans son livre à lui. C'est un livre qui fait peut-être 300 pages, qui raconte donc l'histoire de son grand-père espagnol et de Vicente Rosenberg, notre grand-père commun. Il y avait une trentaine de pages qui racontaient ce moment-là, le moment où Vicente est à Buenos Aires pendant la guerre et il reçoit des lettres. Il citait pas les lettres parce que je pense qu'il les avait pas, lui, il n'avait pas la traduction. Mais en lisant ça, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à fouiller, c'est évident. J'avais déjà parlé de mon grand-père Vicente dans mon premier livre, Une enfance laconique.
Voilà, parce qu'il est question d'un silence,
voilà,
aussi à
rompre. Je savais que,
voilà,
ouais, que ce silence-là, le silence de... qui traîne, disons, dans tous mes livres, Une enfance laconique, Une jeunesse à faune, Une adolescence taciturne, quoi, les titres ne cachent pas trop
le
mon côté silencieux, malgré l'impression que je donne ici. Et voilà, quand j'ai lu ces lettres qui sont effectivement assez terribles, quoi, qui deviennent terribles quand on sait tout ce qui s'est passé, parce que c'est souvent, elles parlent de tout petits détails, quoi. Par exemple, elles demandent des chaussures, elles demandent qu'on lui envoie des chaussures de Buenos Aires. En soi, ça n'a rien de tragique. Quand on relit ça avec tout le reste, évidemment, c'est... Mais je savais qu'il fallait que j'écrive un livre entier sur le silence de mon grand-père.
Et c'est vraiment la lecture de ces lettres, donc il y a 3 ans, qui a déclenché...
Oui, qui a vraiment déclenché l'écriture. Ouais. C'est-à-dire, c'était toujours là dans ma tête, mais voilà. Là.
Karine Thuil, pas de document personnel à la base de votre roman, Les choses humaines, mais une famille, un couple et leur garçon, la famille Farrell. Alors lui, Jean, c'est un célèbre journaliste politique. Elle, c'est une intellectuelle connue pour ses engagements féministes, qui lui sont d'ailleurs parfois reprochés. et leur fils Alexandre est un futur étudiant à Stanford. Tout va bien en apparence, malgré l'âge qui fait sentir ses morsures de plus en plus douloureuses pour l'ego, surtout pour Monsieur Farrell. Les luttes de pouvoir qui sont de plus en plus difficiles à mener, les aventures, les maîtresses, les amants qui ont déjà donné de sévères coups de canif dans le contrat que ces deux-là ont signé. Et à l'heure où ils doivent entamer l'un et l'autre un nouveau départ, eh bien, la catastrophe arrive et elle arrive par le fils. Alexandre est accusé de viol sur la fille du nouvel homme qu'aime Claire, donc sa mère. C'est grave, mais pour Jean, moins que finalement une fuite qui pourrait faire prendre l'eau à sa carrière. Il ne s'agira pas d'une simple fuite, mais d'une véritable hémorragie, un bain de sang social, médiatique, familial, qui va ravager ces choses humaines, hein, titre de votre livre, et c'est cette hémorragie que vous racontez. Dans un roman vissé vraiment à l'époque, un roman qui déchiquette l'époque, une époque de faux-semblants, d'illusions à préserver, d'hypocrisie, de bal des vanités, si vous me permettez cette référence à Tom Wolfe. J'ai pensé, il compte évidemment dans le paysage des choses humaines, Tom Wolfe, c'est-à-dire cette espèce de ces personnages qui vont prendre un véhicule et se fracasser dans un mur, auquel on pensait déjà d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il y a une forme de bûcher des vanités. Ouais. Moi, j'aime beaucoup raconter la société dans mes livres et en dévoiler les aspects les plus sombres. Hein. Finalement, je crois que c'est aussi le rôle de l'écrivain, c'est de raconter, de dire ce que l'on veut cacher dans la société. Donc ces personnages, dans ce livre, vont voir toute leur fragilité, toute leur faiblesse dévoilée sur la place publique avec cette histoire de viol du fils.
Il y a tout hein, de l'époque dans ce roman, les Weinstein hein, qui apparaît, la Maison Blanche, les grandes chaînes de télévision françaises, les campus américains, leur morale aussi, les réseaux sociaux, mais au centre, bah, la famille, cette petite cellule qui a de plus en plus de mal à survivre dans ce grand cadavre social à la renverse. Pas de documents personnels, je disais, mais une solide documentation, notamment en termes de procès, hein, puisqu'en fait, on assiste à un procès vraiment minute par minute.
En fait, au départ, j'étais partie d'un fait divers qu'on appelait l'affaire de Stanford. Aux États-Unis, en 2016, il y avait eu un procès qui avait entraîné une vague d'indignation entre un étudiant de Stanford, sportif émérite, brillant, venant d'une bonne famille, et une jeune femme qui, elle, venait d'un milieu plus simple. Et ça s'était passé à l'issue d'une soirée sur le campus. Et à l'issue du procès, la peine, 6 mois de prison, dont 3 mois ferme. Ça avait effectivement
déclenché une polémique énorme.
Et j'ai pensé que ce serait intéressant de commencer à travailler sur ce sujet. Et donc, j'ai commencé à aller au palais de justice pour assister à des procès d'assises. J'ai rencontré des avocats, dont deux particulièrement, qui m'ont beaucoup aidée.
Que vous remerciez hein, à la
Je
fin du livre.
Je remercie, voilà, Archibald Céléron et Julie Fabreguette pour ne pas les nommer. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que grâce à eux, j'ai eu accès à des documents de procédure. Donc, on découvre ce qu'est un viol de l'intérieur. Non pas. Alors, c'est un livre en plus qui est abordé du point de vue de l'agresseur et de sa famille. Il y avait eu beaucoup de témoignages de victimes, mais finalement, on ne connaissait pas très mal, en tout cas, la parole de l'agresseur. Et au palais de justice, cette parole se révèle dans les PV d'audition de police, dans les interrogatoires des juges d'instruction. La parole se révèle. Les actes, les intentions, il y a une sorte de vie à l'état brut dans ces documents-là qui est absolument étonnante. Par exemple, quand la jeune femme vient déposer plainte et que le policier lui demande si elle a joui, je n'invente rien. Tout dans le roman est vrai parce que tout est basé sur des documents ou des choses que j'ai entendues au cours de procès réels. Même le procès que j'ai composé dans ce livre est inspiré évidemment des différents procès auxquels j'ai assisté. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une récurrence et les choses se répètent.
Et c'est cette affaire qui, enfin, comme le disait Santiago, évidemment, la situation n'est pas comparable, mais c'est ce matériau-là qui a brûlé et qui vous a permis d'écrire ce livre.
C'est un matériau littéraire extraordinaire. Tout d'un coup, vous avez des dialogues, un matériau brut. Et c'est formidable pour un romancier d'avoir accès à cette matière-là et de la transformer et d'en faire une matière romanesque. Ça reste une fiction.
Santiago Migorna, juste une question à laquelle je pensais, là, Karine Thuil m'y fait penser. Vous êtes aussi scénariste, réalisateur de cinéma. On vous doit le scénario du Péril jeune. Il y a quelques années. C'est différent, ce qui déclenche l'écriture d'un scénario, l'écriture d'un livre, en termes de matériaux tangibles.
Je pense qu'au niveau du matériau, ça peut être assez semblable. Après, par contre, c'est l'écriture elle-même qui n'a absolument rien à voir. Parce que le scénario, il faut écrire des phrases que tout le monde lira exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut que le chef décorateur, le chef opérateur, les comédiens, tout le monde se retrouve avec un texte qu'il ne faut pas interpréter. L'acteur sur les dialogues. C'est-à-dire que le dialogue, c'est le seul endroit où on peut peut-être jouer un peu avec la langue, laisser une forme de liberté de lecture. Mais le reste, il faut le verrouiller de tous les côtés.
Et on a une grande liberté quand on écrit un roman. Enfin, c'est très différent. Moi, j'avais aussi travaillé pour le cinéma. Et c'est vrai que c'est... Vous en avez fait un métier, mais pour les romanciers, pour les écrivains, c'est souvent un écueil insurmontable. Et je pense notamment à Jonathan Safran Foer, qui avait écrit une série, ce romancier américain que j'aime beaucoup. Et finalement, il en a fait un livre formidable, d'ailleurs, qui s'appelle Me voici. Et
il était venu dans cette émission, d'ailleurs.
Il a tout abandonné.
Dans ce monde dont vous parlez, Karine Thuil, un monde où il y a tumulte d'images, tumulte d'accélération, d'exigence d'authenticité, mais aussi de fake news. Comment vous définiriez le rôle de l'écrivain, hein? Je rappelle, j'aime toujours le citer, la définition de Salman Rushdie, qui dit toujours cet art ancien que l'on appelle littérature, qui paraît de plus en plus ancien dans ce monde qui va vite alors que c'est quelque chose qui est plus lent, sans image alors qu'on met de l'image surtout. Quel est le rôle de l'écrivain, si tant est qu'il est un rôle? Peut-être n'en a-t-il pas.
Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'on appelle la littérature du réel, donc choisir des sujets de société et raconter la société d'aujourd'hui. Je pense que ça tient aussi à moi, j'ai une formation de juriste, donc les questions d'ordre éthique, politique m'ont toujours intéressée. Et pour moi, c'est ça, le roman, c'est le lieu où on va tenter une compréhension de la complexité du monde avec nos moyens. Donc c'est poser des questions finalement sans proposer aucune réponse.
Une explication que donneraient pas les autres moyens dont la société dispose pour regarder, justement observer les éléments.
C'est questionner, c'est surtout pour moi c'est ça, c'est un questionnement.
Alors quoi, questionner quoi alors par exemple?
Questionner les incohérences de la société qu'on
pour les
propose
choses humaines,
aujourd'hui
par exemple
sur les rapports hommes-femmes, comme vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire où chacun aujourd'hui met en scène sa propre vie, dans la transformation des rapports humains, une société obsédée par la performance, la compétitivité. Donc, c'est des éléments que j'essaye de raconter dans mes livres. Et c'est vrai qu'à travers un procès raconte la société d'aujourd'hui. Je pense par exemple au procès France Télécom, ça raconte quelque chose de la violence des rapports humains. De la même façon qu'un procès pour viol va révéler des choses sur les rapports hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui.
Et pourquoi ça permet de poser de meilleures questions que peut-être d'autres outils dramaturgiques, narratologiques ou avec de l'aide de l'image ne pourraient pas poser comme ça?
Il me semble qu'on a une liberté totale parce que il faut voir aussi que ça coûte rien de fabriquer un livre, je pense, par rapport à un film où les contraintes sont telles qu'il y a des exigences perpétuelles et vous devez parfois remettre un objet qui ne vous correspond pas. Ouais. Alors qu'un livre, vous êtes totalement libre. C'est très rare qu'un éditeur vous censure ou vous dise là tu ne peux pas aller sur ce terrain-là, tu vas avoir des ennemis. Et à partir du moment où vous avez cette liberté-là, cette jouissance-là, ce pouvoir même, c'est quand même un pouvoir formidable, vous en acceptez aussi d'ailleurs après les risques, c'est-à-dire la critique, les coups, ça fait partie aussi du métier d'écrivain de s'exposer.
Mais qu'est-ce que le lecteur peut comprendre de ça qu'il ne pourrait pas comprendre grâce au livre, qu'il ne pourrait pas comprendre sur les rapports hommes-femmes, sur qu'est-ce que permet la littérature, qu'est-ce que permet le livre dans sa matière même?
Alors moi, il me semble que le fait que ce soit inclus, alors moi, c'est parce que moi j'aime la fiction, encore une fois, mais le fait que ce soit inclus dans une matière romanesque, il me semble que le lecteur se laisse emporter et finalement s'interroge sur sa propre vie, sur sa propre vision de la société. On peut le faire très bien aussi avec un récit. Moi, c'est vrai que j'aime le roman, mais les grands romans, par exemple américains, vous parliez de Tom Wolfe, justement, interrogent aussi sur les rapports de domination, de prédation, le racisme. Tous les grands romans ont su aussi dévoiler certains grands problèmes sociaux.
Par des mécanismes d'identification, en fait, c'est ça?
Exactement, par des mécanismes d'identification. Et encore une fois, parce que je pense qu'on arrive aussi à mettre des mots sur une souffrance sociale.
Santiago Miguel.
Oui, moi, j'aime beaucoup ce que vous disiez sur le fait de poser des questions sans réponse. Je pense que c'est quoi? C'est là où se trouve, voilà, la fiction ne peut aller que vers ça. Évidemment, la poésie aussi, la philosophie très souvent aussi, mais le propre de la fiction, c'est quand même de balancer des choses que l'auteur lui-même n'a pas
résolu. Vous pensez à quoi pour le ghetto intérieur, par exemple?
Je pense que, quand je suis allé un tout petit peu plus loin, pardon, mais c'est... Oui. Évidemment, le ghetto intérieur, c'est très différent. Bon, mon matériau, c'était pas seulement les lettres de ma grand-mère, c'était aussi les livres d'histoire. J'ai beaucoup lu sur la Shoah, ce que j'avais jamais fait auparavant, donc... Il y a des choses que j'ai incluses dans le livre, qui viennent de livres d'histoire. Mais je pense qu'il y a un tiraillement dans toute la littérature qui est entre le fait de poser des questions à son époque, très directement, et par exemple Borges disait qu'un écrivain devait être anachronique. C'est-à-dire pour lui, le travail d'un écrivain, c'était d'être anachronique. Il l'opposait au journalisme. Je pense que c'est dans les deux écritures, dans l'écriture anachronique ou l'écriture qui est extrêmement ancrée dans l'époque et qui... On a eu une tradition française assez forte.
Ou américaine, le disait.
Oui, américaine, c'est plus récent. Oui, disons, parce que le 19e américain, je ne dirais pas que c'est ça.
Mais oui, d'ailleurs, les Américains, Tom Wolfe, dont on parlait, font référence toujours à Balzac ou Zola. Donc au grand roman français, 19e.
Balzac et Zola, qui s'opposaient évidemment à Flaubert et Stendhal. Et ça, par exemple, en Argentine, il n'y a jamais eu pratiquement une vraie tradition d'une écriture romanesque qui interroge l'époque. En tout cas, on n'a jamais pensé que c'était un critère de qualité absolue, alors qu'en France, je pense que oui. Moi, je ne me prononcerai pas sur les... C'est comme s'il y avait deux écoles, deux possibilités. Le propre des deux, c'est d'interroger des choses que les autres moyens n'interrogent pas. Je crois que c'est un...
Notamment sur l'identité, je pensais... Alors là, c'est un point commun vraiment entre vos deux livres sur le rapport à la judaïté. Je vous cite Karine Thuil. La honte, il n'était pas prêt pour ça et c'est pourquoi pendant des mois, il avait refusé tout engagement. Il avait été élevé dans l'obsession de la préservation d'une spécificité juive. Combien de fois avait-il entendu cette phrase à l'adolescence, en tant que juif, tu as des devoirs, tout ça est écrit en gros caractères et en gras, tu fais partie d'un peuple dont tu dois assurer la survie. Et c'est plus dans la typographie, c'est de plus en plus gros. Et chez vous, Santiago Amigorena, comme tous les juifs, Vicente avait pensé qu'il était beaucoup de choses jusqu'à ce que les nazis lui démontrent que ce qui le définissait était une seule chose, être juif. À Varsovie, Vicente avait fait partie de cette bourgeoisie éclairée qui en avait eu assez d'être juive si être juif signifiait se vêtir toujours de noir et être un peu plus archaïque que son voisin. Karine Thuil, vous avez plus loin, vous parlez de carcan juif aussi. Est-ce que ça fait partie de ces questions sans réponse, c'est-à-dire sur l'identité, des questions qu'on ne se pose pas assez et que l'écrivain lui pose?
Je pense que c'est intéressant de voilà, ces deux extrêmes montrent bien, peut-être, je m'avance sur votre livre, Karine vous dirait, mais que la manière de parler de quelqu'un donc aujourd'hui, dans les années 2010, tient compte de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que moi, je fais parler quelqu'un qui... Il avait plusieurs générations où il avait essayé d'être chaque fois moins juif. Sa mère avait été moins juive que son père. Et finalement, oui, c'était une bourgeoisie polonaise qui s'était plutôt intégrée. Donc même toute la culture juive de l'Est de l'Europe ne parlait absolument pas hébreu, ce qui serait une des définitions possibles, en tout cas du sémitisme, parce que le yiddish n'est pas du tout une langue sémite. Donc voilà, tout ça c'était défait, et tout d'un coup le nazisme a fait que beaucoup de juifs, donc qui étaient devenus n'importe quoi, mais quoi, plein de choses, disons, quoi, je défends le fait que l'identité est toujours multiple et mouvante, donc que personne n'est que juif ou que catholique.
Sauf
ou
à
que
certains
musulman.
Moments de l'histoire, où voilà, on vous renvoie à cette identité.
Sauf à des moments où on ne laisse pas le choix.
C'est l'impossibilité d'échapper à cette condition, quelles que soient les époques, et c'est aussi le poids, vraiment, de... Ça m'a beaucoup intéressé, d'ailleurs, les pages sur ce sujet dans le livre de Santiago Amigorena, parce que j'ai retrouvé des éléments. Alors, parfois, j'étais pas d'accord, parfois, j'étais d'accord, parce que j'ai beaucoup écrit, c'est vrai, sur cette question-là. Et je crois même, puisqu'on parlait du questionnement de l'écrivain, que j'écris pour questionner aussi ma place dans le monde. Alors là, peut-être en tant que femme, dans certains livres, en tant que juive, et l'impossibilité d'échapper à sa condition.
Enfin, après, et au poids de la famille.
Et au poids de la famille, parce que...
Voilà.
Ça, On en parle chacun dans le livre, mais comment on échappe à ça? Et aussi, le livre de Santiago le montre aussi, et je crois que je le montre aussi, c'est comment on arrive à se construire dans la haine de l'autre. Enfin, être juif, c'est faire l'expérience du mépris originel très tôt. Et moi, j'ai découvert à l'adolescence seulement, parce que pareil, enfin ça aussi, ça m'a touchée dans le livre, c'est que on parlait pas de notre tellement de notre judéité dans ma famille, on disait israélite éventuellement. Et à l'adolescence, j'ai découvert la Shoah à travers des récits, à travers la littérature, à travers des grands textes, Robert Antelme, Primo Levi, Elie Wiesel. Et tout d'un coup, le premier choc, c'est de se dire, qu'est-ce qui, dans ma personne profonde, a pu susciter tant de haine? Et ça, c'est des questions qu'on retrouve dans votre livre, il me semble.
Et elles sont sans réponse, vous disiez, des questions sans réponse? On en a quand même.
Il y a un moment où je reprends un tout petit peu une formulation de mon cousin, je dis qu'elle est... Quoi, les nazis tuaient pas les juifs parce que ils étaient moches, parce qu'ils avaient mauvaise haleine, parce que, je sais pas, ils sentaient mauvais des pieds, quoi. C'est pas exactement les mots, mais ils les tuaient parce qu'ils étaient juifs. Donc, effectivement, à ce moment-là, juif veut dire quelque chose de très clair. D'ailleurs, les nazis ont passé, entre 1933 et 1945, ils n'ont jamais cessé d'essayer de définir qu'est-ce que c'est un juif. Et l'administration nazie s'est jamais mise d'accord sur cette définition possible.
Il y a deux personnages même qui s'amusent en disant, voilà, si ma fille épouse un non-juif, mais que ses propres enfants épousent une juive, ils redeviendront juifs alors qu'ils ne l'ont peut-être pas été.
Enfin, oui, moi je
s'amuse ça. On ratiocine beaucoup aussi en Argentine, à Buenos Aires, la bande d'amis de Vicente.
Et ça continue, quoi. Moi, je suis pour les juifs, je suis juif. Voilà, je peux me définir comme juif. Ma mère est juive. J'ai trois enfants qui ne sont pas juifs, et effectivement, je ne suis absolument pas, j'allais dire, à l'abri, ou avoir, je n'aurai pas le bonheur, ou je ne serai pas à l'abri, les deux me vont, d'avoir de petits-enfants juifs. Et c'est juste que j'aime pas que, voilà, que ça devienne une définition. Je pense que femme, c'est sans doute plus compliqué, mais je ne sais pas on est femme tout le temps, si on est homme tout le temps. J'espère que non.
On va en parler avec Karine Thuil, parce qu'il en est question dans Les choses humaines. On interrogera ce titre aussi, Les choses humaines. C'est chez Gallimard, texte de la rentrée littéraire. On est ensemble pour une heure avec Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur chez POL. On écoute votre choix musical, Karine Thuil. Vous avez choisi Il faut savoir de Charles Aznavour.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire. Dans une vie bête à pleurer, il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir.
Il faut savoir, Charles Aznavour. C'est le choix de Karine Thuil qui publie Les choses humaines chez Gallimard. On est ensemble avec Karine Thuil et avec Santiago Amigorena qui publie Le ghetto intérieur chez POL. Karine Thuil, vous citez ce titre de Charles Aznavour dans votre dernier roman. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Vous avez voulu nous le donner à entendre aujourd'hui.
Bah Jean Farel l'écoute dans un taxi.
Jean Farel qui est donc...
qui est le personnage principal du livre, qui est un journaliste politique, qui est marié à une essayiste. Et Jean a une double vie depuis 20 ans. avec Françoise Merle, une journaliste vieillissante qui est un peu exclue du monde social. Et il y a cette relation très forte entre ces deux journalistes d'une même génération et qui veulent conserver leur place, rester en poste, continuer à être alerte, à travailler, à vivre. Elle est déjà un peu exclue du monde du travail parce qu'en plus, elle est malade. Et Jean croit qu'il va retrouver sa vigueur juvénile en ayant une liaison avec une jeune stagiaire. Et donc cette chanson finalement le renvoie profondément, c'est quelqu'un qui cache ses émotions, qui est dans les apparences, mais elle le renvoie à une forme de vérité, c'est-à-dire ce moment où il faut savoir quitter la table, quitter les amours, les êtres qu'on a aimés, quitter la place en fait. Et je la trouve à la fois profonde, triste... Et puis elle le renvoie aussi à sa génération, parce que son fils, par exemple, à un moment, écoute du rap. Pour moi, c'est intéressant dans un roman, les indicateurs musicaux.
Il y a beaucoup de rappeurs qui aiment Aznavour. Hein. Les choses humaines, donc c'est votre 11e roman, Karine Thuil. On y découvre donc une famille qui commence à voler en éclats dès les premières pages, qui pourrit non pas par la tête, mais par le couple, épuisé par les mensonges. Peut-être que le couple est la tête de la famille. Deux personnages, donc Jean Farel, vous en avez parlé, journaliste influent, âgé, amoureux d'une maîtresse de son âge, mais déjeunant volontiers avec de jeunes femmes, surtout quand elles sont primo-romancières. Voilà, ce mot primo-romancière, quand on publie un premier roman, et rêvant de retrouver avec elle une jeunesse enfuie. Et puis Claire, de l'autre côté, de 27 ans, sa cadette, intellectuelle vantée, louée pour son engagement, non sans polémique parfois. Ils ont eu un fils, Alexandre, c'est leur chef-d'œuvre, il est étudiant, futur étudiant à Stanford. Claire vient de quitter Jean pour s'installer avec Adam, marié, lui, à une juive ultra-religieuse, mère de deux filles, dont une certaine Mila, qui va être importante, puisque alors qu'on assiste à une scène où Jean a une relation sexuelle avec l'une de ses stagiaires, on pense que c'est sur lui que vont s'amonceler les nuages et se déchaîner l'orage, et bien vous déplacez le curseur et les nuages et l'orage vers Alexandre, dans une fête où il a invité Mila. Il la viole, même s'il minimise son acte. Hein. En tout cas, ça s'appelle un viol. Il se retrouve accusé de viol. Et là, de façon extrêmement minutieuse, vous orchestrez la chute de cette famille sur fond de tempête médiatique, en reconstituant notamment, avec une grande maestria, les minutes du procès. Donc, est inspiré, vous nous l'avez dit, de cette affaire de Stanford de juin 2016. En quoi, Karine Thuil, braquer le faisceau romanesque sur la cellule familiale vous paraît-il peut-être le meilleur moyen de sonder les plaies de l'époque, de la société? C'est la famille. Il est souvent question de chute,
oui,
de famille chez vous.
C'est une miroir de la société, c'est une micro-société, la famille. Hein. Ça révèle aussi les dysfonctionnements de la société elle-même, parce que on le voit bien avec la famille Farel, c'est une famille de pouvoir, d'influence, qui cherche à exister socialement, de la même façon que dans la société, certains agissent ainsi. Donc, et puis, je trouvais aussi intéressant de raconter le lien qu'on a avec ses propres enfants. On a tendance à reporter sur ses enfants ses ambitions, ses désirs de réussite. Jean Farel est un autodidacte qui est fils d'une prostituée toxicomane. Qui n'a...
Oui, ça, je me suis posé la question. Pourquoi lui mettre finalement presque une part de tragique dès l'enfance, qu'on va retrouver à la fin, en faire un enfant si blessé, en fait, dès le départ?
Pourquoi il s'accroche à ce point à son pouvoir et à son poste? Il peut pas le perdre parce que ce serait le déclassement, ce serait revenir à la douleur des origines. Et son fils incarne cette réussite fantasmée, cette réussite au fond qu'il aurait voulu avoir lui-même très tôt à l'adolescence, c'est-à-dire faire des études. Le fils est polytechnicien, il est diplômé de Stanford. Et puis il y a la chute de votre enfant. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est assez beau, c'est-à-dire que vous aimez un enfant, vous le portez. Il a 21 ans dans le livre. C'est un étudiant brillant, une personne assez sensible, hein, je crois, tel qu'il apparaît en tout cas, il est vulnérable, il a commis quelque temps plus tôt une tentative de suicide, c'est un être assez blessé, Alexandre, et puis cet homme va chuter, va commettre cet acte fatal. Alors lui, il va dire qu'il n'a pas violé, que la jeune femme était consentante, elle va dire qu'elle a été violée, mais en tout cas, les vies sont brisées. Et donc j'avais envie aussi de raconter ça, ce lien-là, tout d'un coup, Claire, qui a été toujours cette féministe très engagée, avec des partis pris assez radicaux, va tout d'un coup, quand il s'agit de son fils, vouloir le défendre et remettre en cause même la parole de la victime.
C'est un thème qui est très important dans la rentrée littéraire, la famille, et pas que la rentrée littéraire, toujours dans la littérature. Moi, je pense toujours, évidemment, la phrase de Gide, « Famille, je vous aime », et la suite est encore plus belle d'ailleurs, « Foyer clos, porte refermée ». possession jalouse du bonheur. Ça s'applique totalement à ces choses humaines, Karen Twill. C'est vraiment là où aussi mettre le fer pour observer les fêlures de la société, oui, les fêlures d'une personnalité.
Bien sûr, parce que chaque famille fonctionne avec ses propres codes, y compris par exemple la famille d'Adam Wiesmann et sa femme qui, elle, est une juive religieuse. Donc il faut dire que c'est une famille qui est devenue plus pratiquante après une tragédie, en fait, puisque leur fille était présente au moment de l'attentat perpétré par Mohamed Merah en 2012. Donc c'est une famille qui est assez fracassée. Et ils vont trouver dans la cellule familiale, dans la religion, dans la pratique assidue de la religion, une forme de réconfort. Et là aussi, on voit cette cellule familiale et l'hésitation d'Adam à briser tout ce qu'il a construit en une vie pour une aventure sexuelle. Et j'essaye de raconter dans le livre, d'ailleurs, comment le sexe et la tentation du saccage rythment aussi le monde.
La première phrase de votre livre, Karen Twill, « La déflagration extrême, la combustion définitive, c'était le sexe, rien d'autre ». Fin de la mystification, c'est l'incipit du roman. Et immédiatement après, on a celle-ci. Claire l'avait compris quand, à l'âge de 9 ans, elle avait assisté à la dislocation familiale. En quoi c'était important pour vous de placer cette désagrégation familiale sous le signe du sexe, c'est-à-dire ce que vous appelez la combustion définitive? Le sexe qui semble avoir tous les pouvoirs sur la famille, mais sur toute la société. C'est tenu par ça.
C'est l'élément qui peut déclencher quelque chose de fatal dans une famille. Ce que je raconte dans le livre, c'est des choses que des gens autour de nous ont déjà vécues. Et donc, c'est vrai que dans ce livre, j'ai voulu à la fois raconter la sexualité dans son aspect le plus beau, le plus grand, l'amour, et dans son aspect le plus pervers, le plus sordide, le viol.
Le livre s'ouvre par une citation de La Joie de Bernanos, qui cherche la vérité de l'homme, doit s'emparer de sa douleur. C'est le meilleur moyen d'aller à la recherche d'une certaine vérité romanesque, d'aller chercher la douleur.
Ah oui, c'est d'ailleurs...
Pourrait s'appliquer à vous.
Jamais cette phrase ne m'a semblé aussi juste qu'en assistant à des procès au palais de justice, parce qu'on voit bien les destins fracassés de part et d'autre, la douleur souvent originelle qui précède le passage à l'acte en fait.
Il y a une jouissance à regarder, à observer la douleur de ces personnages pour livrer quelque chose au lecteur quand on est romancier.
Il y a une forme de voyeurisme. Je pense effectivement que on est un peu vampire quand on écrit. On se nourrit des autres, on se nourrit de ce que l'on voit, et parfois on se nourrit aussi de leur malheur, de leur chagrin. C'est une évidence. Alors on essaye de leur rendre justice en écrivant une œuvre qui soit valable, qui ait une forme intéressante, mais c'est une réalité. L'écrivain israélien David Grossman disait que l'écrivain est un pickpocket. C'est exactement ça. C'est qu'on vole véritablement quelque chose à autrui pour en le transfigurer, en faire autre chose.
Ou on offre à autrui, parce qu'au fond, Santiago Megorena, vous, c'est finalement cette douleur familiale, ces lettres aussi, c'est des lettres qu'une femme, qu'une mère envoie à son fils. Au fond, elle ne pourrait regarder que cette famille. Et vous, pourtant, vous décidez de nous la donner, cette douleur-là.
Pour m'en débarrasser. Oui, je pense que c'est pas très différent. En fait, voler et offrir, parce que dans le vol de la douleur de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on ne prend pas quelque chose que l'autre ne possède plus. C'est-à-dire la douleur est ce qui va continuer à définir l'autre personne. On prend cette douleur pour la transformer en quelque chose qui peut être partagé d'une autre manière. Donc on l'offre à des lecteurs. Je pense que la douleur, de toute façon, définit l'identité, ça c'est sûr.
Quand on parle de sujet, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, Karen Twill, mais en étant directement dans l'époque, Santiago Amigorena parlait de journalisme et de Borges qui faisait la différence. Évidemment, vous ne faites pas de journalisme, mais vous avez les mêmes matériaux qu'un journaliste, sauf que vous faites des romans. Est-ce que parfois, à force d'être si près des événements qui sont aujourd'hui l'affaire Weinstein, l'affaire Epstein, maintenant aussi, on est en plein dedans, est-ce que parfois vous ne dites pas, est-ce que je ne vais pas manquer de recul? Ou en fait, ce n'est pas une question à se poser?
Alors là, pour ce livre-là, le problème, c'est que j'ai commencé à travailler en 2016 et j'avais déjà quasiment fini le livre quand il y a eu l'affaire Weinstein. Donc, je me suis dit, est-ce que je l'intègre ou pas? Et il me semblait que je ne pouvais pas ne pas l'intégrer. Ça me semblait impossible, puisque vraiment, ça a été une révolution, un moment important, libération de la parole de la femme, enfin. Et donc, j'ai décidé de l'intégrer. Alors, Aujourd'hui, on a l'impression que c'est vrai que j'ai écrit un roman sur l'affaire MeToo, mais pas du tout. En fait, c'est un tout petit passage du livre qui est consacré à cette question.
Mais sur ces rapports hommes-femmes qui irriguent le livre. Hein,
après, voilà. C'est vrai que moi, c'est une question qu'en tant que romancière, je ne me pose pas. C'est-à-dire que j'écris le livre que j'ai envie d'écrire sans jamais penser à la réception du livre, à la réception critique. J'écris d'abord pour moi, en fait. Et c'est le plus important.
On va vous écouter lire un passage. J'ai choisi donc un moment d'un petit interrogatoire, justement, donc après le drame, après la catastrophe, après le viol.
La plaignante affirme que vous l'avez violée. C'est faux. Elle vous a dit qu'à la soirée, elle m'a proposé de prendre l'air. C'est elle qui a voulu aller dans un local pour fumer. Et plus, on s'est embrassé, et voilà. Pourquoi affirme-t-elle le contraire? Je sais pas, moi je suis pas dans sa tête. Pour se venger, sûrement. Quand on est sorti, je lui ai dit que c'était un bizutage. On devait rapporter les dessous d'une fille présente à la soirée. J'avais sa culotte dans ma poche. C'était stupide, j'avoue. Après, elle a pleuré. Je l'ai laissée en plan dans la rue et je suis retournée à la soirée. Vous pensez que je serais retournée avec mes amis si j'avais violé cette fille? En plus, c'était la fille du compagnon de ma mère, je ne suis pas idiot. Ok, je l'ai humiliée, je le regrette. Mais c'est mon seul tort. C'est une vengeance, c'est clair. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Je n'ai rien fait, je suis innocent. Ça va, je peux rentrer chez moi maintenant? Non. Vous êtes en garde à vue pendant 24 heures renouvelables une fois. Nous attendons les résultats de l'expertise ADN. Dans l'après-midi, les policiers avaient convoqué les amis présents à la soirée. Ils racontèrent qu'Alexandre était tout à fait normal en début de soirée, mais qu'il paraissait légèrement ailleurs à son retour. Il était un peu bizarre, il avait clairement pris des trucs, mais c'est tout, et après, il a dansé une bonne partie de la nuit. Rémi Vidal apparut extrêmement choqué. Il était le seul à ne pas remettre en cause la version de la victime. « Je me sens responsable de ce qui s'est passé. C'est moi qui ai lancé ce bizutage. J'ai été ridicule. » Je m'en veux terriblement. Le policier lui avait demandé s'il pensait qu'Alexandre aurait pu commettre un tel acte, s'il avait la réputation d'être violent, et Rémi avait répondu que non. Alex, c'est un mec très sympa, il n'y a rien à dire. À un autre ami présent à la soirée, ils avaient demandé s'il se souvenait de Mila Wiesmann. Oui, il s'en souvenait. Elle n'était pas très sociable, le genre un peu coincé, mais ça voulait rien dire parce que dans les soirées, celles qui font la gueule sont souvent celles avec lesquelles vous finissez par coucher. Il relut et signa sa déposition. Les policiers n'avaient pas d'autres questions.
Merci Karine Thuy. Les choses humaines, c'est quoi ces choses humaines?
Alors, j'ai volé ça à Proust. Ouais. Au début de la recherche, quand il parle du retour des choses humaines, quand sa mère vient finalement l'embrasser, j'ai trouvé que c'était...
Et dans votre livre, c'est quoi les choses humaines alors?
C'est finalement, voilà, c'est le sexe, l'amour, la tendresse, la maladie, c'est les choses de la vie.
Qui nous font et nous défont.
Exactement.
J'aurais vous poser une dernière question, Karine Thuil. Est-ce que vous avez appris, parfois, écrire un roman, c'est aussi une manière d'apprendre quelque chose, on le disait, hein, c'est sur ces questions sans réponse qu'on se pose. Est-ce que vous avez appris des choses sur ce sujet qui traverse vraiment l'époque que nous vivons, qui a traversé l'histoire et qui la traversera malheureusement encore sur cette histoire de la difficulté aussi des rapports hommes-femmes et du viol qui est au centre vraiment du livre. Qu'est-ce que vous avez appris, vous?
Finalement, je me rendais compte que je ne savais rien de ce sujet. C'est vraiment... j'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet, mais aucun livre n'avait la force du réel, c'est-à-dire le fait d'assister à des procès où tout d'un coup, on voit la complexité de ce sujet. C'est-à-dire que nous, on a souvent un regard, une analyse extrêmement binaire sur ces sujets. Il y a un agresseur, il y a une victime, et on se rend compte au palais de la confrontation des versions, de la faiblesse parfois des témoignages, et chacun avance avec son vécu, ses failles et ses fragilités. Et c'est ce qu'on découvre au fond en travaillant sur ce sujet, c'est la complexité de l'âme humaine, c'est la complexité du passage à l'acte. Pourquoi à un moment on passe à l'acte? Et c'est sans doute d'ailleurs ce qui m'a intéressée en fait dans ce sujet. Pour revenir au texte de Santiago Amigorena, c'est pareil, moi, la question du passage à l'acte pendant la guerre, comment tout d'un coup on commet ce génocide? Le mystère du mal, enfin ce qu'Anna Arendt a tellement bien décrit, la banalité du mal.
Et je crois que est-il banal d'ailleurs?
J'écris aussi pour comprendre ce mystère du passage à l'acte.
C'est un instrument de connaissance, le roman, pour le lecteur, mais aussi pour l'écrivain, vous pensez?
Ah oui, tout à fait. Moi, mes lectures m'ont formée et m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. On est le produit de ces lectures et chaque lecture est une ouverture sur un monde dont vous ne connaissez rien, dont parfois vous connaissez les ramifications et c'est à chaque fois une découverte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je pense que ça ne va pas mourir parce que les gens s'inquiètent du déclin, disent que les gens lisent moins. Moi, je reste quand même résolument optimiste parce que le roman nous donne, la littérature plutôt nous offre des portes d'accès sur le monde uniques, exceptionnelles.
Vous pensez ça, Santiago Amigorena?
En lisant son livre, j'ai appris exactement de la même manière qu'en écrivant le mien. C'est-à-dire, c'est le même, la même nature de connaissance. Donc,
qu'est-ce que vous avez appris en lisant le...
J'ai appris énormément sur le monde judiciaire. J'avais assisté, en fait, il y a 2 ans à un procès. Je travaillais sur un film, on avait besoin de voir. C'était un procès en harcèlement sexuel de 3 employés contre un patron d'une cave de vin. Et c'était extrêmement troublant, c'est vrai, parce que j'avais pas suivi tout le procès, mais la première fois j'avais entendu l'homme qui justifiait son harcèlement en montrant comment il y avait une des plaignantes qui avait dansé à moitié nue sur une table, je l'ai pas harcelé, elle a caressé les jambes de quelqu'un qui danse nu sur une table, on était tous sous. Et après, on entend l'autre côté qui remet absolument tout en question. Finalement, je pense que je sais même pas le résultat du procès. En tout cas, c'était très clair que.
Et en tant qu'ambassadeur, vous auriez pu vouloir.
J'allais pour l'utiliser pour un scénario, donc je me suis pas posé la question. Mais voilà, dans les choses humaines, j'ai appris. Quoi, c'était à partir de cette toute petite connaissance que j'avais eue en 2 jours, elle s'est développée d'une manière énorme.
C'est remettre de la complexité. Aussi,
exactement.
Finalement,
le fait qu'il n'y a pas de réponse. La question que je voulais vous poser, je passais le moment, mais Alexandre est présenté pendant très longtemps comme presque le seul vrai innocent de cette famille, parce qu'il n'a pas d'histoire, bon, il a son monde sexuel, il se masturbe un moment dans sa chambre, il a, on dirait, un peu un bon étudiant avec ses problèmes. Avec un héritage familial très complexe à assumer. Mais c'est lui qui va passer à l'acte, c'est lui qui va être, et en même temps coupable, mais aussi accusé. Pendant un certain temps, on le suit en tant qu'accusé, pas forcément en tant que coupable.
Et votre question?
La question, c'est est-ce que vous avez voulu et choisi de faire quand même une figure d'innocence pendant un...
C'est pas une figure... C'est une forme d'innocence.
Pour
son personnage, en fait, j'avais envie, à travers ce personnage, d'aborder la question de la pression sociale qui est imposée à ces jeunes des grandes écoles, puisque je connais assez bien ce sujet. Et donc, très tôt, ils subissent quand même des pressions tellement fortes. C'est un tabou, par exemple, dans la société, mais il y a parfois des suicides dans ces écoles. Et donc, l'idée de, tout d'un coup, d'un jeune homme qui serait soumis à une telle pression, une telle obsession de la compétitivité, qui véritablement imploserait, tout d'un coup, perdrait pied, je la trouvais plus intéressante que de faire tomber, par exemple, le père.
On s'attend d'ailleurs à
mais,
ça.
Mais c'est sûr, effectivement l'innocence perdue, bien sûr.
Non, c'est un choix dramatique qui est très, très fort.
Alors, le choix dramatique, il est très fort. Il n'a pas choisi le pauvre Vicente Rosenberg, votre héros et votre grand-père, Santiago Amigorena. On continue cette exploration aussi de la famille avec vous. Ça s'appelle Le Ghetto Intérieur, c'est chez POL. Ça commence en Argentine, on est à Buenos Aires et vous avez choisi un tango qu'on va écouter, Por un Cabeza, chanté par Gardel. J'allais dire évidemment.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibier.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Por una cabeza, chanté par Gardel, un tango choisi par Santiago Amigorena qui publie Le Ghetto intérieur chez POL. Est-ce que je vous demande quand même pourquoi vous avez choisi de nous faire écouter Gardel et un tango argentin?
Disons que c'est pas en lien direct avec le sujet le plus important du livre, mais mon grand-père était joueur, donc il allait à l'hippodrome et bon voilà, c'est... Ce tango où Gardel, pour une fois, ne pleure pas la séparation d'une femme ou le fait qu'il est loin de sa mère. Voilà, il pleure qu'il a perdu por una cabeza, ça veut dire qu'il y avait un autre cheval qui était en avance d'une tête sur lequel il avait parié.
Il a perdu d'une tête.
Voilà. Il a perdu d'une tête. Donc c'est un petit hommage à un côté qui pour moi est assez important de la personnalité de mon grand-père. Il était très joueur.
Il joue au billard aussi, on le découvre avec ses amis dans les premières pages de ce Ghetto intérieur. Et on va en parler, on est avec Karine Thuil aussi qui publie Les choses humaines chez Gallimard. Dans ce Ghetto intérieur, Santiago Amigorena, on fait d'abord connaissance avec vous à travers quelques lignes qui sont placées à l'orée du livre. Vous expliquez ceci. Il y a 25 ans, j'ai commencé à écrire un livre pour combattre le silence qui m'étouffe depuis que je suis né. Et avant de faire connaissance, après un brutal saut dans le passé avec un autre homme, qui n'est pas vous, mais votre grand-père dont vous nous parliez, et c'est lui qui va nous donner la clé de ce silence. Il s'appelait Vicente Rosenberg, c'est un juif de Pologne, de Varsovie, qui s'était installé en Argentine dès 1928 pour se marier, avoir deux enfants. Il avait trouvé dans ce nouveau territoire une forme de liberté, loin de la vieille Europe. Il songeait à faire venir sa mère rester à Varsovie en même temps. Il était content d'être un peu aussi sans sa mère et sans ce monde qu'il avait voulu quitter. Et puis la guerre éclate, les nouvelles qu'il reçoit sont de plus en plus inquiétantes, puisqu'en fait sa mère est enfermée dans le ghetto de Varsovie. Elle lui écrit, et l'enfer en fait éclate dans les mots, en même temps que la guerre, en fait, dans les mots des lettres que la mère envoie à son fils, qui subit à distance, mais de plein fouet, la violence nazie avec la culpabilité de celui qui est à l'abri, en tout cas physiquement, mais pas du tout mentalement ni émotionnellement. Et c'est cette culpabilité, cette impuissance à sauver qui l'on aime, que vous décrivez dans ce ghetto intérieur bouleversant, qui est basé sur les lettres de votre grand-mère, qui peu à peu se font rares à mesure que la narration progresse, qui aussi nous fait part, un peu dans une forme de narration alternée avec les décisions prises par l'administration nazie, que vous rappelez, et vous nous donnez, entendre la tragédie de cet homme qui est emmuré dans sa douleur, alors qu'apparemment il est sauf. La question qui est posée, c'est à quoi bon peut-être être vivant quand ceux qu'on aime sont en train de mourir? J'ai une autre question à vous poser. Pourquoi ce livre que vous nous dites, dès le début, avoir mis, ou avoir commencé plutôt à écrire il y a 25 ans, ne trouve-t-il qu'aujourd'hui son aboutissement avec la révélation de ce qui est l'événement fondateur? Mais au fond, on vous en avait parlé de ce grand-père.
Oui, j'ai mis longtemps à comprendre l'importance du silence de mon grand-père. Ce n'est pas la seule origine de ce que j'écris. Il y a d'autres silences, il y a aussi des lectures. Donc il y a plusieurs origines, mais voilà, tout d'un coup, j'ai compris que le silence de mon grand-père, directement dû à ce qu'il a vécu pendant la guerre, donc à ces lettres qu'il recevait de sa mère, avait sans doute bâti une partie de mon silence à moi. En tout cas, je m'étais enfermé dans un silence enfant qui était semblable au sien. Le silence de mon grand-père, je le connaissais depuis toujours. Quoi. Ma mère m'en avait parlé, c'était quelque chose qui dans la famille existait, dont on pouvait parler de ce silence. En même temps, je pense que c'est pas unique. Il y a pas mal de survivants qui étaient en Europe au moment de la guerre qui ont aussi choisi le silence. Mmh. Mon grand-père parlait d'autre chose, il ne parlait jamais de la guerre. Cette période de l'histoire n'existait pas pour lui.
Et pourquoi avoir choisi de briser le silence de ce grand-père sur cette question-là dont il parle dans le livre? Et via la fiction, vous arrivez à le faire.
Justement, c'est aussi que je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'éloigne peut-être d'une forme qui m'est plus habituelle, qui est d'écrire donc à la première personne, et d'utiliser un peu moins. J'utilise toujours des moyens de fiction, il y a toujours des personnages, il y a des dialogues dans mes livres, mais là il fallait vraiment que je saute un peu un pas et que j'aille un peu plus loin dans la fiction pour parler de quelque chose qui est d'une certaine manière le moins fictionnel de mon histoire. En même temps, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que j'allais traiter avec le même degré de fiction tout ce qui se passait à Buenos Aires, c'est-à-dire à 12 000 kilomètres là où avait lieu vraiment le drame historique, et ce qui se passait en Allemagne, en Pologne, à Paris. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était absolument, pour moi en tout cas, c'était absolument impossible. C'est-à-dire que je ne pouvais pas inventer un dialogue entre deux dignitaires nazis dans un restaurant à côté du quartier général de Hitler, la Tanière du Loup, ou que je ne pouvais pas faire du dialogue avec la conférence de Wannsee. Disons qu'historiquement, le poids et la force et le drame, la tragédie absolue de ce moment-là m'interdisait d'utiliser des moyens de fiction. Donc très souvent, on passe de Buenos Aires à ce qui se passe en Europe. Mais à ce moment-là, j'écris, je pense, avec moins de moyens de fiction. Je raconte des faits. D'ailleurs, même les faits historiques les plus tragiques que j'ai lus en lisant sur la Shoah, j'étais absolument incapable de les mettre dans le livre.
C'est ce qui, d'ailleurs, est intéressant dans le livre. Il y a le silence du monde. On le voit progressivement, comment les dignitaires politiques sont informés de ce qui se passe et comment ils gardent le silence. Et le silence de cet homme qui ne parle plus. Alors, il faut dire, parce que vous avez de très belles pages sur la famille, on le voit avec sa femme, avec ses enfants. Il les aime. Au début du livre, il a même voulu échapper à sa mère. Donc, au début du livre, il y a cette famille magnifique. On voit cet amour, cette beauté de cette famille, et puis cet homme qui peu à peu se replie jusqu'à presque s'effacer, presque à disparaître. C'est une forme de mort, de la même façon que sa mère meurt à distance. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette opposition. Voilà, finalement, le silence est partout, et pas seulement chez lui.
Oui, effectivement, je le savais un peu, mais je ne le savais pas aussi précisément. Mais il y a eu, un fameux article du Daily Telegraph qui informe pour la première fois du génocide qui a lieu en Pologne et qui est donc publié en page 6 du journal et qui fait deux colonnes et qui n'a pas du tout été repris. Mais après, il y a des articles à Buenos Aires, aux États-Unis. C'est-à-dire, on aurait pu savoir et pourtant on n'a pas pu savoir. C'est une question sans réponse d'une certaine façon.
Et c'est vrai
encore une. Et celle-là, qui est exactement la même qu'on pourrait se poser aujourd'hui, sur ce qui nous arrive aujourd'hui, sur les génocides qui ont lieu aujourd'hui, sur la dictature en Argentine.
Bon, justement, ça c'est la question, alors pour le coup elle a une réponse, et la réponse c'est ce livre, c'est une question que vous vous êtes posée, c'est-à-dire je livre à des gens qui ne connaissent pas, qui est une histoire familiale, qui peut-être ne regarde que la famille, qui la dépasse, parce qu'évidemment ça touche à la Shoah et à l'histoire. Vous vous êtes posée cette question-là, pourquoi je livrerais? Parce que justement, je veux peut-être que vous connaissiez.
Là, je pourrais dire que c'est une question que je pose absolument dans tous mes livres, c'est comment combattre le silence. Et c'est la réponse que je vais donner ici, qui n'est pas, j'espère, celle que je donnerai à la fin de ma vie, quand j'aurai fait ma dernière ligne de ce projet qui m'occupe depuis si longtemps. C'est que on combat le silence avec l'écriture, et que l'écriture, évidemment, est une autre forme de silence. Il y a plus de silence dans l'écriture que peut-être dans le silence lorsqu'on tait la parole. C'est-à-dire que l'écriture est, on disait, un acte absolument solitaire. Les mots sur un livre, ils sont un peu morts, quoi. C'est-à-dire que ce qui fait la vie de la parole, c'est ce qu'on est en train de faire là et dont une partie va se perdre à la radio, c'est qu'on se regarde, on parle avec tout notre corps, qu'on lance quelque chose, que les autres vont recevoir une réaction. L'écriture, c'est un combat perpétuel pour essayer d'installer un dialogue alors qu'on est absolument seul.
Mais pourquoi vous dites que les mots sont morts quand on les met sur une page? Au contraire, on va les réveiller en les lisant.
Ils ressuscitent dans la lecture.
Ah oui, c'est ça.
Mais en tout cas, c'est pas pour celui qui les écrit, on met des mots morts sur une page.
On va les ressusciter ensemble, Santiago Mégorena. J'ai choisi un passage où on passe justement, le livre est construit comme ça, c'est-à-dire de la vie de Vicente à Buenos Aires. Et puis, il y a la lecture d'une lettre qu'il reçoit de sa mère.
Ce que Vicente n'avait pas confié à son ami, qu'avant qu'il ne se rende au magasin le matin du lundi 9 décembre 1940, un événement était venu confirmer l'appréhension qu'il éprouvait depuis quelques semaines. Cette appréhension qu'il avait tenue éloignée du Tortoni et de ses amis. Cette appréhension née des rares nouvelles qu'il avait entendues malgré lui à la radio, au café et au kiosque du coin de la rue. Le facteur lui avait remis une lettre postée à Varsovie, avec des timbres allemands et des sceaux à l'aigle guerrier. Une enveloppe sur laquelle il avait immédiatement reconnu l'écriture de sa mère. Mon chéri, merci pour les dollars. Tu as peut-être entendu parler du grand mur que les Allemands ont construit. Heureusement, la rue Siena est restée à l'intérieur. Ce qui est une chance, car sinon on aurait été obligé d'abandonner l'appartement et de déménager. Comme ça, au moins, on a pu éviter qu'il soit saisi. La vie n'est pas facile, mais on s'organise. Le problème, c'est la foule. Ils ont emmené beaucoup de Juifs des autres quartiers. Ils remplissent les rues de tristesse. On peut dire que nous, on a eu de la chance, même si, comme tout le monde, on a du mal à trouver de quoi se nourrir. J'ai dû vendre les bijoux qui me restaient et le manteau de fourrure que m'avait offert ton père pour mes 40 ans. Tu t'en souviens ? Envoie-nous tout ce que tu peux. Ton grand frère t'embrasse, il demande que tu lui écrives. Ta mère qui t'aime.
Merci Santiago Maguire. C'est difficile de lire ces lettres ?
Oui, bien sûr. C'était difficile d'écrire et c'est difficile de lire, pas seulement les lettres, mais voilà, c'est un livre qui parle d'événements qui sont toujours douloureux. C'est deux tragédies, c'est vrai, ce que disait Karine, il y a la tragédie historique, générale, absolument immense de la Shoah. Et il y a la petite tragédie d'un homme qui détruit aussi sa famille, quoi, qui détruit sa famille parce qu'il s'enferme dans le silence et qu'il commence à oublier ses enfants, sa femme.
On sent que c'est un livre différent des autres, qui était toujours dans cette veine très proustienne, très autobiographique. Là, vous parlez aussi d'un autre que vous. Est-ce qu'écrire sur ce sujet a nécessité le fait de trouver une autre langue, une langue différente de celle que vous utilisez d'habitude ? Peut-être une plus grande simplicité
ou... Oui, c'est très clairement un livre qu'en corrigeant, en tout cas, j'ai eu tendance à simplifier chaque fois plus. Il y a quelque chose de différent dans la langue, parce qu'il y a des moments qui sont de la fiction assez simple, entre guillemets, c'est-à-dire le début du livre... Trois amis dans un café à Buenos Aires en 1940. C'est quelque chose que je fais souvent pour le cinéma quand j'écris des scénarios, d'écrire des dialogues entre des gens qui juste vivent un moment. On commence à aborder un sujet, mais le sujet n'est pas... on l'impose pas, disons. Donc c'est vraiment de la fiction pure, entre guillemets. Et de ça, il fallait arriver à des moments, en tout cas... Je me proposais pas ça, mais j'ai senti en écrivant qu'il fallait arriver à être d'une simplicité très grande.
Ça a été le cas pour vous aussi, Karine Thuil, d'inventer une langue, justement. On parlait de ces minutes du procès, ce rythme, ces phrases qui contiennent énormément d'informations sur l'époque, sur les caractères, sur les familles aussi de ces personnages.
Oui, bien sûr. Chaque livre impose sa langue et moi, c'est ce que j'aimais justement dans les procès, dans les PV d'audition, c'est que les gens qui parlent ne parlent pas du tout la même langue. Parce que ça trahit aussi la place sociale. Là, c'est l'opposition dans mon livre entre un jeune homme qui vient d'un milieu lettré et une jeune femme qui a moins les codes, qui est plus jeune, qui n'a pas les mêmes réussites scolaires et la langue n'est pas la même. Et c'est ces jeux d'opposition qui sont intéressants dans le roman parce que c'est un matériau extraordinaire. Et donc, effectivement, d'un livre à l'autre, vous n'allez pas avoir le même style. Là, j'ai été vers quelque chose d'un peu plus sobre, d'un peu plus... il y a une économie, alors que pour d'autres livres, il y avait des phrases beaucoup plus longues qui raconte aussi la société d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment un choix de langue qui s'impose à chaque livre.
Pour terminer, une dernière question à tous les deux. Est-ce que la littérature, pour vous, a des fonctions sotériologiques, comme on dit ça ? Est-ce qu'elle a le pouvoir de sauver, de réparer ce qui a été disjoint, de sauver les souvenirs, de réparer des liens familiaux, par exemple ?
Moi, j'aime bien la phrase de Mario Vargas Llosa qui disait que la littérature vous dédommage des revers que vous inflige l'existence. Ouais. Et c'est vrai que d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est une réparation ou une consolation, je n'y crois pas toujours, mais en tout cas, il y a une forme de dédommagement, même si il n'est pas total.
Bon, Caritul s'en est sauvé, a appelé Vargas Llosa à la rescousse, que diriez-vous ? Livre, ce ghetto intérieur, qui est écrit maintenant.
Ce qui est très complexe, c'est que réparer, c'est-à-dire est-ce que c'est pour réparer, est-ce que la littérature doit réparer l'auteur qui est brisé, ou est-ce qu'elle doit réparer le lecteur, ou est-ce qu'elle peut réparer aussi la personne à qui on adresse directement le livre ? J'espère en tout cas que certains livres réparent autant les auteurs que les lecteurs, et aussi parfois juste une personne à qui on adresse un livre qu'on veut réparer.
Merci beaucoup Santiago Amigorena, merci.
Merci
Karine Tuil, merci Vargas Llosa aussi pour cette belle
grand auteur.
Voilà, et Borges aussi dont il a été question. Je rappelle le titre de vos livres, Karine Tuil, Les choses humaines. C'est chez Gallimard. Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur chez POL. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission de rentrée.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation. Jean-Michel Bernaud à la technique avec la collaboration d'Alexis Kaiser. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour écouter à l'infini cette émission sur franceculture.fr, cette émission avec Karine Tuil et Santiago Amigorena.